Géraldine, notre charmante speakerine, est en train de consulter le courrier du cœur que vous nous envoyez tous les jours par courrier au 9 boulevard des Minimes, 31 000 Toulouse, pour Radio Éphémère. Non, l'intro.
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 1er octobre 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec... c'est pas du reggae aujourd'hui, c'est Dirty Dancing.
Non, il faut dire amis auditeurs, ce n'est pas du reggae aujourd'hui.
Et à 17h, éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat d'après-match que vous attendez tous.
Précédemment... dans le supplément week-end.
C'est indécent de porter des vêtements quand on est une enfant sauvageonne. Ça sera la guerre avec sa bienfaitrice qui en augure bien d'autres, comme dormir dans un lit, se servir d'une fourchette et retenir son prénom.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Ah oui, le Tonga, ils y sont pas allés en tongs. On s'est juste pris une belle branlée. Magnifique pour une nation de 300 000 habitants, il me semble.
Ouais, allez.
Le rugby a été importé là-bas par les missionnaires anglais et les habitants locaux qui se faisaient la guerre entre îles, des guerres fratricides et tout ça. Ils étaient très heureux d'y mêler leurs techniques guerrières. Et donc... les Français sont en quart de départ. Mais tout ceci, du sport vous le racontera bien mieux que moi, après donc mon réquisitoire, bien évidemment, au moment où la parole sera à la défense à 13h30. Et non, nous ne sommes pas dans le tribunal des flagrants délires, mais c'est le supplément week-end, et du sport est à 13h à peu près, puisque il va en parler en long, en large, en travers, et il va, je vais dire, à mon avis, sérieusement, les secouer. En attendant, le... planning pour aujourd'hui est assez serré quand même, mine de rien, puisqu'il y a pas mal d'événements. Ainsi, d'abord, il y a le printemps de septembre qui a lieu à Toulouse pour encore 3 semaines. Et la radio est toujours le programme off du printemps de septembre.
Je pensais que ça se terminait ce soir ou demain. Non,
ce soir, ce qui se termine, c'est la radio du bout de la nuit, dans lequel qui a lieu à partir de 22h30.
23h, j'ai lu dans le journal, moi.
Possible. Jusqu'à 1h du matin. Mais en fait, ça continue après sur Radio FMR, puisqu'il y a des prolongations, puisque ce créneau horaire, en fait, est repris par nos amis de France Culture, dirigés par Olivier Poivre d'Arvor, comme chacun sait, qui nous aiment énormément. Et tous nos salutations d'ailleurs à tous les anciens de Radio FMR qui est sur France Culture, Marc Voinchet, plein d'autres d'ailleurs. Mais bon, ça vous étonne sûrement d'une radio de punk comme la nôtre. Et là-dessus, vous n'avez pas encore fini toutes les surprises, puisque c'est bientôt les 30 ans de la radio. Vous voyez un petit peu l'affiche, c'est de septembre à décembre. Toutes les infos sur le site de la radio, bien évidemment. Et pour en revenir au printemps de septembre, eh bien donc, ce soir, c'est la dernière. C'est en direct de la cour d'honneur de l'École des Beaux-Arts. C'est un grand moment de rire, de rigolade. C'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. À écouter au casque, c'est franchement le bordel. Et c'est vraiment pliant. Voir sur scène, c'est quelque chose qui est là aussi pas triste. Juste une info, par contre, l'accès est limité par la sécurité.
Ouais, parce que c'est pas grand, hein.
Ben, surtout que c'est un petit chapiteau qui est mené au milieu, mais ça vaut le coup quand même de flâner, surtout avec le temps magnifique qui fait dehors en ce moment. Ça vaut le coup de flâner dans le dans la cour, parce que voilà, ben, il fait 30 degrés, même si ça souffle beaucoup. On fait encore très bon le soir. À signaler aussi aujourd'hui et demain de 10h à 20h à Gaillac, c'est le salon du livre avec Olivier K, Duno, Vanderer, Alain Bourdet, Sophie Texier, Michael Hirsch, Jean-Baptiste Aran et l'équipe de Charlie Hebdo. Pourquoi donc ? Eh ben tout simplement parce que l'équipe de Charlie Hebdo est fait tout simplement la millième de leur magazine satirique. Enfin, la millième est sortie le 17 août dernier, mais le Charb, qui est l'actuel rédacteur en chef, mais parce que Philippe Val a été appelé sur une autre radio à punk qui s'appelle France Inter, où il a dû faire le ménage d'ailleurs, à cause de tous ces humoristes de droite qui avaient
ouais.
J'en ai à mon stylo.
Voilà. Il est là-bas. Donc, je disais...
Et c'est en direct, c'est du direct.
C'est
là,
du direct intégral, voilà, le stylo, il vole, et puis... et on n'a pas de script girl derrière pour rattraper le stylo. Donc, tout cela pour dire que Charb ne voulait pas faire un millième numéro, mais les éditions Les Écharpés, eux travaillaient pour faire un bouquin pour l'événement. D'ailleurs, il y a eu le pot de lancement cette semaine dans le siège social de Charlie Hebdo, qui est dans le 3e arrondissement de Paris, un très chouette endroit qu'il quitte parce que quand même ça faisait pas très populaire, hein, comme quoi donc ils vont plus, je crois que c'est dans le 17e, mais je ne suis pas sûr. Donc la période moderne de Charlie Hebdo, donc 1000 numéros depuis sa relance en 91, mais ils avaient repris.
Ah d'accord, parce que je me disais que depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis les années 60, comme c'est un hebdo, a priori 1000 c'est assez vite passé, quoi, puisque
voilà,
bon, t'as 50 numéros par année, donc tu fais le calcul, en 20 ans tu les as, les 1000.
Sauf que
Il faut tenir compte de l'interruption, de la grosse interruption qu'il y a eu
en 80,
dans les années 80.
Oui, oui. À cause de l'élection de Mitterrand, la censure a été impitoyable et a dit non, on arrête Charlie Hebdo. Donc voilà.
Ouais. Bon, là tu
plaisantes. On peut troller un peu.
Il plaisante complètement parce qu'il faut savoir que en fait ça a repris. Ça a repris avec la première guerre du Golfe. À l'occasion de cette première guerre du Golfe, ils ont décidé. Enfin, il y a eu les historiques, hein, c'est-à-dire ceux de la première mouture, plus toute une nouvelle génération, dont Philippe Val, qui ont repris le cap avec la grosse Bertha. Et la grosse Bertha, c'était pendant la guerre, hein. L'allusion à la guerre est évidente. Et quand la guerre s'est arrêtée, ils se sont dit au départ, la grosse Bertha ne devait paraître que le temps de la guerre du Golfe, quoi, parce que il faut se rappeler, historiquement parlant, que notre président bien-aimé de l'époque,
François Mitterrand avait parlé d'une logique de guerre.
Voilà. Et donc, les Français étaient partie prenante dans cette histoire-là, même s'ils étaient résiliés à portion congrue, mais bon, ils étaient quand même partis. Et donc, en réaction, ils avaient décidé de sortir donc ce Grosse Bertha. Et à la fin de cette guerre du Koweït, ils se sont dit c'est cool, on a quand même pas mal de tirages, on a pas mal de lecteurs, et en plus on a une toute nouvelle génération qui n'a jamais connu Harakiri, qui n'a jamais connu Charlie Hebdo de la première époque, c'est-à-dire les années 60 et les années 70, donc ça vaudrait peut-être le coup. Et de plus, c'était une période qui était, on va dire, plus ou moins propice. Parce que politiquement parlant et générationnellement parlant, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans le monde, dans la société, et donc il y avait pas mal de blé à moudre, quoi. Donc ils se sont dit OK, on continue et on reprend l'ancienne appellation Charlie Hebdo. Mais
ça avait été les débuts des remous, puisque la période moderne de Charlie Hebdo était beaucoup moins calme que on aurait pu le croire, hein, puisque c'était à l'intérieur, hein, vraiment, et tous ceux qui étaient autour qui ont mis qui fait que Charlie Hebdo a eu une histoire très mouvementée. Je me souviens de cette sortie assassine du créateur du nom Charlie Hebdo, c'est-à-dire le professeur Choron.
Choron, ouais,
qui était pas d'accord, qui a fait un procès pour essayer de récupérer les droits, parce qu'il était assez procédurier, parce que à lui-même on lui a fait pas mal de procès, feu professeur Chaumont, hein. Il avait sorti cette phrase absolument géniale: ils ont volé un cheval et ils comptent gagner une course avec. Professeur Choron aussi voulait lancer, hein, voulait relancer un magazine satirique et tout ça. Et en fait, ils ont gagné ni plus ni moins la course. Ils ont dépassé les 1000 numéros. Il y avait finalement, parce que c'est vrai qu'ils avaient tenté de relancer Harakiri à côté, ça avait pas tenu. Il y a eu aussi le despotisme hein, de Philippe Val quand il était à France Inter, à Charlie Hebdo, pour il y avait des sujets imposés qui ne plaisaient pas, hein, parce qu'il avait des amitiés avec certains hommes politiques, ce qui ne facilitait pas certaines choses au sein de la rédaction, pour la complaisance. C'est pour ça que Ciné était parti en claquant la porte pour fonder Ciné Hebdo. Là aussi plouf.
Quoi ouais, qu'il se relance, enfin bon, Ciné, hein. Ciné a toujours été un petit peu un franc-tireur hein, dans l'histoire, parce que bon, bah, c'était lui qui était vraiment le plus de par ses textes et tout, qui était vraiment le plus à gauche, on va dire même à la super extrême gauche et tout. Quoi, c'est l'anar fini.
Ah,
c'était
un anar complet. Oui, oui.
Là, clair. Il n'a jamais changé de cap. Alors que bon ben il y avait quand même toute cette nouvelle génération qui était un petit peu plus on va dire molle, on va dire un petit peu plus mesurée, on va dire hein, il faut aussi savoir que bon ben il n'y a pas eu que Ciné hein, parce que Ciné quoi à l'intérieur de Charlie Hebdo au départ a quand même eu la peau de Renaud qui faisait une chronique hein, dans chronique hebdomadaire dans dans Charlie. Et bon
Renaud Séchant, c'est un chanteur engagé, vous ne pouvez pas connaître
hein. toutes les semaines il y avait un petit mot pour Renaud dans le billet de Ciné quoi, c'est pas compliqué hein. Toutes les semaines quoi, il lui en foutait plein la gueule par rapport au billet de la semaine précédente. C'était assez rigolo. Et il faut aussi savoir qu'il y avait quelques anciens qui François Cavana,
oui.
Je me rappelle pas, il y en a encore un ou deux autres qui étaient donc les historiques et qui ont lâché assez rapidement.
Ouais, ils sont partis assez vite. Hein.
Qui se sont dit bon bah ok, ça nous correspond plus. Bon bah on va pas empêcher le truc de continuer parce que c'est quand même une œuvre. On va dire c'est quand même quelque chose qui sert à quelque chose, mais c'est plus notre tasse de thé, c'est plus notre Charlie Hebdo. Comment on le voyait dans le temps, donc bon bah ok, on se barre, on a autre chose à faire de toute façon. Et bon bah il est vrai aussi que dans ce nouveau Charlie Hebdo, nouvelle mouture, bon bah on a découvert de jeunes talents, on a découvert des gens qui étaient vraiment très très intéressants.
Il y a Char, Blues et tous les autres. Justement, c'est toute une génération de nouveaux illustrateurs, nouveaux critiques qui ont explosé. Il y a eu aussi oncle Bernard, j'ai oublié, professeur en plus d'économie à l'université de Toulouse.
Bernard Maris, quoi. Donc,
Bernard Maris qui est co-actionnaire. Hein, il fait partie des co-fondateurs qui font des chroniques intéressantes. Et maintenant, on le voit en tant que invité régulier, entre dans les émissions comme C'est dans l'air sur les télés et tout le reste. Bref, Charlie Hebdo a réellement amené quelque chose. Ce millième numéro, donc, n'a pas été un numéro exceptionnel parce qu'il ne le voulait pas. Par contre, il y a donc un recueil qui compile notamment les 1000 couvertures de Charlie Hebdo, excepté les unes des 61 et 78 parce que c'était Ciné qui les avait dessinées, il a dit, et fuck off, vous n'allez pas me les republier, ainsi que la 64, soi-disant pour un problème d'archives. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a manqué de papier aux toilettes. Et donc, c'est aux éditions Les Échappées, sachant que les 20 000 exemplaires sont en rupture de stock, c'est en réimpression, et le nouveau stock de réimpression, il est en ce moment au Salon du Livre de Gaillac. Donc il y aura tous les dessinateurs du Charlie Hebdo moderne au Salon du Livre de Gaillac ce week-end. C'est ouvert à tous, gratuitement, à l'exception de Ciné qui n'est pas là. Je crois qu'il ne souhaitait pas être présent.
On va pas en rajouter là.
La semaine prochaine, Relom et Bouzard seront à la librairie de Gilbert Joseph en dédicace à partir de 15h. Seulement, ils seront dans le suppléant week-end, peut-être. La semaine prochaine, je n'en sais rien, on attend les confirmations. Guillaume Bouzard pour The Autobiography of Me. The Autobiography
ça va être
of
le
Me
clash.
The Biography of Me Free, Like a Bird, sorti, paru au Requin Marteau, ainsi que ses illustrations dans So Food, Fluide Glacial, partout ailleurs. Autre auteur de Fluide Glacial, Olivier Morel alias Relom, qui raconte les histoires déprimantes des deux gamins Andy et Gina qui vivent dans le nord des Corons avec une enfance malheureuse et catastrophique. Le cinquième et dernier tome d'Andy et Gina sortira justement la semaine prochaine, et on l'aura donc en dédicace à la librairie Gilbert Joseph, et peut-être qui sait, samedi prochain vous l'aurez là en live, on les recevra avec les petits gâteaux, les petits fours et l'eau plate. Oui, non. Accessoirement, et pour dire qu'on continue encore, qu'on a une actualité extrêmement chargée, le 3e festival international de littérature policière aura lieu au Forum de la Renaissance et métro Basso-Cambo, donc à Toulouse, avec la présence de, pour la bande dessinée, Baru, quand même grand spécialiste de polar de ce côté-là, Laurent Astier, dont on avait vraiment énormément apprécié son histoire sur la prostitution lyonnaise, Roger Martin, Max Cabane, Troubs, Chantal Montelier, Point de vue littérature, attention, Thomas H. Cook, Doug Headline, alias le fils de Jean-Patrick Manchette. Oui, je sais, je relis ce qui est écrit sur le site terredelegende.fr, hein, je suis désolé. Philippe, puisque la librairie, d'ailleurs, n'y sera pas. Voilà. Philippe Leroy, Nick Stone, des auteurs du monde entier, avec en invité d'honneur Pablo Ignacio Talbo.
Taibo, du
Mexique, pardon, merci, tu m'as éclaté les vues maître, et Brigitte Aubert, donc en invité d'honneur, ce sera la semaine prochaine, voilà, lors du Festival International Littérature Policière. Je sais que du sport adore ce genre de littérature, est-ce que tu y seras?
Je vais essayer de faire un tour, moi ce qui m'intéresse surtout c'est, quand même la venue c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est un vieux monsieur, hein. C'est un très très vieux monsieur, Paco Ignacio Taibo, quoi. Mais c'est quand même un des grands auteurs de polar. Il est mexicain, pratiquement l'ensemble de sa carrière, de sa bibliographie, de son œuvre, eh bien ça se passe au Mexique. Et ça a été une découverte à l'époque, hein. Ses livres sont sortis chez Rivage Noir, bien sûr, hein, la collection dirigée par François Guérif. Donc on va dire que c'est gage de qualité quand même au départ, parce que François Guérif est quand même un mec qui sait de quoi il parle, hein, ça c'est sûr. Et de plus, Paco Ignacio Taibo a quand même une production assez conséquente, et c'est vraiment vraiment très très bien, hein. Bon, moi j'ai pas tout lu de ce monsieur.
On a compris.
Mais franchement, c'est un des très très grands. Alors, et c'est peut-être une des rares fois, on va le voir en France. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Là, il y a pas de problème. Mm. Si vous ne le connaissez pas, jetez-vous sur ses œuvres. Ça, c'est vraiment excellent. Rien à dire de plus.
Et au programme, pour terminer la partie assez complète, hein, je veux dire, finalement, de l'agenda, le 25e festival de la BD de Colomiers, 18, 29, 19 et 20 novembre, la radio est partenaire, nous serons normalement en direct là-bas, Pénélope Bagieux est la, comme ils disent, la super invitée, et le planning est un peu disponible, je pense, dans toutes les librairies BD en ville, ainsi qu'évidemment à la radio, si vous passez nous voir, n'hésitez pas. Du lundi au vendredi, donc ce sera 18 au 20 novembre, et après nous, le week-end suivant, on réempile au TGS, au Toulouse Game Show. On va passer à une bio et ensuite à revue de presse, et après l'interview, comme quoi on a du planning. Puisque nous a quitté Sergio Bonelli, cette ère de western forcément, mais de western sauce spaghetti, et pour cause, c'est un Italien de ce côté-là. Il nous a quitté mardi dernier, je crois. Il est né en 1932 à Milan. Il est entré très tôt dans le monde de la bande dessinée, parce que son père, tout simplement, était l'éditeur et créateur surtout de Tex, le cowboy. À côté de cela, il a essayé de vivre dans l'ombre de son père, surtout qu'il avait le même prénom. Il écrit sous le nom de Guido Nogliatti, et il va créer sa première création originale est Un ragazzo nel Far West, un garçon dans le Far West, en 1956, dessiné par Franco Bignotti. Attention, on est encore dans le terme du western traditionnel, le spaghetti n'est pas encore lancé. Plus tard, il crée le Judge Bean, Zagor, où il mélange le western et le fantastique. Et après, il part dans l'aventure pure et dure, puisque c'est l'histoire d'un militaire abandonné dans la jungle brésilienne, Mr. No. Plus de 300 aventures, mais attention, il n'écrit que la première. Et en tant qu'éditeur, il va connaître une carrière fulgurante puisqu'il a lancé Ken Parker, Dylan Dog, Martin Mister, Norton Never, que des grands de la bande dessinée populaire de ce côté-là. Je sais pas si tu as des choses à dire plus sur la bande dessinée italienne, les fumetti, littérature de kiosque et tout ça.
Oui, oui, non, mais moi, je connais surtout Martin Mister, bien sûr, hein, parce que bon, bah, c'est quand même assez récent et que ça a été adapté en dessin animé, en série animée, donc hein, qu'on peut suivre assez régulièrement quoi sur les chaînes pour enfants. Et c'est quand même assez rigolo quoi, à regarder quoi. C'est cette espèce de mélange de graphisme européen et de d'expression manga, c'est bien foutu.
C'est une adaptation très libre, mais
non,
très
ouais.
fun.
Non, c'est très fun, il n'y a pas de problème.
C'est disponible chez Vendouest, si je me trompe. Dylan Dog, Nathan Mister, n'hésitez pas à pencher vous dessus, c'est assez fun. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour Xavier.
Tu vas bien ?
Eh bien écoute, ça va, je ne suis pas là, mais je suis envoyé en Nouvelle-Zélande, non je déconne.
Ils sont comment là ? Ils sont dans quel état ? Ils sont dans quel état ?
Les Français, je sais pas, j'entends des interviews à droite à gauche sur la radio.
D'accord, bah, j'espère qu'il n'y a personne qui a posé de questions à l'entraîneur, parce qu'à mon avis, là, c'est plus la remarque qui tue, ça va être la mandale dans la gueule. Là.
Voilà, presque.
On va continuer avec toi la revue de presse puisque Zo est sorti. Zo qui était un gratuit mensuel hein, sur la BD, les arts visuels en général, est passé dans une formule bimestrielle pour les raisons économiques et finalement ça donne une pagination beaucoup plus épaisse et beaucoup plus intéressante à mon sens, quoique c'est intéressant puisque c'est gratuit forcément, et ça devrait te plaire puisque en couverture c'est Arthur de Pince pour Zombilenium dont le deuxième tome va sortir. Je suppose que toi t'en es vraiment fan hein, Arthur de Pince.
J'aime bien Arthur de Pince et en plus j'ai vu que Nicolas Anspach avait s'était attiré quelques foudres pour son article sur Actua BD du deuxième tome et il avait vu dans un commentaire quelqu'un avait dit que Arthur de Pince, comme il faut savoir c'est pas du dessin traditionnel, c'est du vectoriel, donc il avait dit Arthur de Pince de toute façon ce n'est pas du dessin. Voilà, on entend de tout de nos jours.
Oh, encore des trolleurs dans le forum.
Voilà.
Ben là, ça devrait t'intéresser puisque en page 7, eh ben on a un making of. Comment il fait, donc comment il travaille les couleurs, comment il travaille les vecteurs, comment il travaille les regards, puisque c'est un des personnages dont on a un step by step en 8 cases en illustration. C'est assez intéressant, c'est bien foutu. Je pense franchement que ça devrait te plaire. Donc je te le mets de côté.
Ah, cool.
C'est une interview d'un certain Thierry Lemaire.
Voilà.
D'Actua BD, voilà,
encore,
ça y est.
On tient toujours Actua BD.
Encore et toujours. Un sujet sur les croisades dans la bande dessinée avec la série Croisade justement de Philippe Xavier, dont le sixième tome donc est sorti. Qu'est-ce que l'on a encore ? La Cité 14 qui revient. La Cité 14, c'était une expérience assez intéressante qui était sortie chez Humanoïdes Associés, où l'idée était de faire une revue, une aventure en fait en épisode qui sort tous les mois et regroupée par saison en une année. Ils ont fait 12 numéros, ils ont fait une année pleine donc, une saison comme ils disent, et puis c'est tout. Ça faisait 4 ans, 5 ans qu'il était question de relancer derrière l'aventure, l'expérience, mais évidemment avec les situations aux humanoïdes associés, c'était un petit peu difficile. Et là, et ben donc ça y est, Romuald Reutimann et Pierre Gabus relancent donc aux humanoïdes associés en octobre une saison 2 qui est dessinée toujours avec cet éléphant dans des histoires, je vais dire, de... Comment dire, c'est pas de la politique, c'est plus de l'administratif fiction, complètement délirant. C'est un roman assez noir hein, quand même. Donc Cité 14 qui revient, Cher Corrompu, c'est le nom du deuxième tome, 120 pages, 20€. Donc ils ont mis le temps hein, cette fois-ci pour le faire.
Le nouveau David B avec Jean-Pierre Filu qui est chroniqué. Jean-Pierre Filu qui est un spécialiste du Moyen-Orient en tant que journaliste, et donc eh ben c'est les meilleurs ennemis, ou comment eh ben les États-Unis ont réussi à monter finalement leurs meilleurs alliés contre eux. C'est extrêmement intéressant, bien évidemment, et encore plus à lire, ça je n'en doute absolument pas. Cédric Pedrosa sur l'autofiction, qu'est-ce qu'il y a en encore, quand l'Amérique parlait français, avec donc une histoire sur la Louisiane en 1903 de Patrick Pugne, c'est aux éditions Daniel Maguin, donc c'est un bouquin que dont Patrick Pugne avait déjà sorti chez Daniel Maguin un premier bouquin là-dessus, et là donc ça s'appelle Frenchman. Encore une fois, ces illustrations absolument magnifiques chez cet éditeur, puisque la qualité de reproduction est absolument délirante, ainsi que Marc-Antoine Mathieu qui se lance dans un BD à la fois en presse et en numérique avec 3 secondes, un récit sans parole qui est prévu pour être lu sur le numérique, donc les deux sortent en même temps. Là aussi, on en reparlera prochainement. Mais si Thomas n'est pas là, quand même, il nous a apporté un sujet. Le sujet en question, eh ben, c'est une interview.
Oui, une interview toute fraîche. Non, je déconne, c'était une interview.
C'est ma faute, hein.
Oui.
C'est ma faute. Et... On avait juste une année fabuleuse.
Oui, j'ai pas entendu ta dernière réplique, mais voilà.
Pardon, excuse-moi. Je disais qu'on a, c'est de notre faute si l'interview arrive un peu en retard. On a eu franchement une bonne actu.
Pas grave. On avait trop d'actu, en fait. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui nous avons une interview de l'auteur Neyef, qui est un jeune auteur de BD qui a publié 2 albums pour l'instant. Donc le dernier c'était Segou, que j'avais chroniqué sur cette antenne, et également Dofus Monster tome 4. Et on rappelle, donc ces deux albums sont édités chez Ankama, et il faut rappeler le principe du Dofus Monster, donc c'est une série de manga-like français qui sont faits par des Français. Donc dont chaque tome est consacré à un monstre en particulier du jeu multivers Dofus Wakfu, et celui-là c'était sur le Firefox. Tu apprécieras, Xavier, le jeu de mots. Voilà.
Oui, et oui, j'essaierai.
Le dernier tome, c'est le tome 7 qui vient de paraître et que je chroniquerai la semaine prochaine, c'est consacré à un gros panda qui parcourt le monde et qui est aveugle, et son nom c'est Zato Ichuan. Donc vous verrez l'allusion aussi, c'est assez facile.
D'accord. C'est fun. Donc,
voilà, donc Neyef, donc c'est un jeune auteur de BD, et donc le style graphique, en fait, moi j'ai trouvé que ça s'apparentait vachement à du Bézian, avec ses visages très triangulaires, centrés, assez anguleux. Il faut dire qu'il aime bien les cons, il le dit dans l'interview, qu'il adore les anti-héros, et ses bandes dessinées, c'est pas vraiment des univers faciles d'accès, c'est plutôt des abrutis, des losers, des personnages assez antipathiques qui sont les personnages principaux, donc il faut entrer dedans. Ce goût, c'est un one-shot avec un album qui est vraiment... faut vraiment entrer dedans avec un personnage qui vire progressivement psychopathe. Donc, et en plus, il y a un choix de couleurs qui est assez osé, qui est assez radical. Donc c'est quand même un album qui vaut le détour.
Alors juste une chose, l'interview, j'ai l'impression que pour toi, ça a été une épreuve.
On peut pas dire ça, mais c'est vrai que comme tout jeune auteur de BD qui débute, c'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est une époque où il faut les interviewer parce qu'ils ont un univers qui a pas encore percé, qui est en prémisse, mais c'est vrai que c'est pas vraiment des gens qui ont beaucoup de bouteilles pour l'instant, donc je pense qu'il est plus à l'aise avec un crayon dans la main plutôt qu'avec un micro devant la bouche.
Ouais, et puis aussi c'était le début du festival d'Angoulême, donc j'ai l'impression qu'il avait un peu la pression. Derrière, ça devait pas être facile.
Je pense que c'est... je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'était sa première interview radio.
D'accord, bah ceci explique tout à fait cela. Ce goût chez Ankama, donc Neyef en interview. Merci Thomas. Et donc tu n'as pu être là aujourd'hui, donc c'est un message cryptique, mais je te souhaite à vous deux un bon week-end.
Ben, merci beaucoup et bonne émission à tous les deux.
Neyef, bonjour.
Bonjour. Alors justement, quel a été ton parcours avant de faire de la bande dessinée?
Bah, le lycée, un bac S, et après une école d'art. Et à la sortie, la BD, quoi, un an après.
Alors tu as commencé par le manga Dofus Monster 4 chez Ankama. Comment t'es-tu retrouvé aux commandes de ce projet? Et est-ce que tu avais démarché d'autres éditeurs pour d'autres projets avant?
Non, j'ai juste démarché Ankama. Et en fait, je suis venu à ce projet par un ami qui bossait dans l'animation à Ankama, qui m'avait parlé de ce projet, chercher des dessinateurs, et puis donc j'ai envoyé des planches et ça a marché. Quoi.
Alors le point commun pour l'instant entre tes deux BD parus chez Ankama, qui sont donc Dofus Monster et Segou, ce sont des personnages crétins antipathiques. Alors est-ce que c'est une pure coïncidence ou une réelle attraction pour ce qui est désagréable?
Non, c'est une attraction, une réelle attraction pour les anti-héros, les crétins, les débiles. Enfin, je préfère ce qui est méchant que ce qui est gentil, en fait.
Ouais, mais parce que si on part du principe que tu mets de toi dans tes albums, c'est peu flatteur, en fait.
Non, non, il n'y a pas de moi, quoi. Ou alors, sans que je le sache. C'est peut-être inconscient, finalement, quoi.
Il n'y a pas d'employé de bureau qui se cache en toi, qui est misanthrope et...
Non, non, ma mère n'est pas cannibale non plus, quoi.
Alors, en dessinant ce goût, est-ce que tu n'avais pas marre, justement, de vivre tous les jours avec ce sale con de Harold?
Bah non, parce que je l'aimais bien, au final, quoi. Je l'aimais bien, hein, ce sale con, quoi. J'aime bien les cons, en général.
Ok, et les couleurs flashy de ce goût, alors est-ce que c'est par volonté d'agresser le lecteur ou est-ce que tu es fan de Warhol?
Non, je suis fan de Warhol, quoi, et de ses sérigraphies, c'est en partie pour ça que j'utilise ces couleurs, même dans mes illustrations. Et c'était aussi un moyen de contraster avec la noirceur du récit, quoi.
Alors du coup, tu utilises des couleurs flashy, mais tu fais un changement de couleur pour la peau de tes personnages, d'une planche à l'autre, alors ils ont la peau verte, ils ont la peau orange, etc. Pourquoi ce changement de couleur?
Bah, c'était pour être en raccord avec le fond, quoi. Juste une harmonie de couleurs, quoi, tout simplement.
Un raccord entre le propos, ce qui se passe dans sa vie et la couleur?
Non, c'était surtout en raccord avec la couleur du décor, quoi. En fait, au début, c'est des couleurs plutôt froides. Et ça va évoluer vers des couleurs chaudes en fonction de l'état psychique du héros, quoi.
En plus, ça te permet de coller un peu plus à Warhol avec les marlines qui sont des quatre couleurs.
Ouais, voilà, quoi, exactement.
Alors, devant tes planches, on pense à Mignola avec l'occulte en moins, mais surtout à Bézian, en fait, pour les visages triangulaires, les côtés un peu torturés, malsains des ambiances, avec les personnages qui sont vraiment, mais... c'est tout à fait hasard.
Ah ouais, Bézian, je connais pas, quoi. Non, Mignola, ouais, mais Bézian, non, je connaissais pas, quoi.
Et à part Mignola, est-ce que t'as d'autres références graphiques?
J'aime bien les gravures du 19e siècle. Sinon, il y a aussi One Piece, en manga. Je lis que, enfin, très peu de manga. À chaque fois, on me ressort des influences manga, mais il y a juste One Piece et Dragon Ball, quoi. Et sinon, non, c'est tout, quoi.
Il y a pas vraiment de parenté évidente entre One Piece et ta BD, quand même. Non.
Si, il y a les Italiens que j'aime bien, quoi. Hugo Pratt, Battaglia, Topi. Mais là, c'est pareil, y a pas vraiment de raccord non plus, quoi. Je sais pas, au début, j'ai commencé à les recopier. Et petit à petit, je m'en suis détaché, quoi. Et peut-être pour ça que maintenant, on voit plus trop la parenté, quoi.
J'ai aussi pensé au film. Alors après, peut-être que tu l'as pas vu. C'est Le Créateur de Dupontel. Où justement, c'est... Ah non.
Non, je l'ai pas vu.
Ben ok. Bon, en fait, c'était pour info un créateur de pièces de théâtre qui s'aperçoit que il est complètement déglingué du ciboulot. Il s'aperçoit que en tuant des petits chats et tout, il s'aperçoit que sa pièce de théâtre s'écrit toute seule, en fait.
Ok, d'accord.
Quand on regarde les créations sur ton blog, on voit que depuis longtemps tu aimes manier les couleurs vives, qui correspond à ce que tu disais pour ton goût pour les couleurs flashy. Alors justement, comment as-tu abordé l'exercice imposé du noir et blanc pour le manga Dofus Monster, du coup, qui a aucune couleur?
Le noir et blanc, j'aime bien aussi, quoi. Enfin, je préfère même le noir et blanc que la couleur, quoi. Enfin, à l'école, je faisais principalement que du noir et blanc, quoi. Justement dans le style des gravures du 19e siècle. Et mes profs disaient que j'étais meilleur dans le noir et blanc qu'en couleur, quoi. Ce qui est vrai.
Donc du coup, tu utilises la couleur par pur défi ou parce qu'en fait, tu pourrais faire toute ta carrière en noir et blanc si tu aimes tant que le noir et blanc que ça?
Ouais, je pourrais faire qu'en noir et blanc, mais c'est la couleur est plus séduisante au lecteur. C'est moins obscur que le noir et blanc, quand même.
Ouais, séduisante. Là, les couleurs flashy, l'impression que ça fait fuir un petit peu, non?
Ouais, c'est tout ou rien, quoi. Soit on aime pas, soit on aime.
Alors justement, quels sont tes projets? Est-ce qu'il s'agit d'autres one-shot ou est-ce que tu vas te frotter à une série?
J'ai fini les planches pour un projet avec un ami. J'avais une idée principale et je lui en ai parlé vu qu'il écrit bien. Donc lui, c'est mes scénarios et là, j'ai fini les planches et je pense l'envoyer la semaine prochaine en Kama. Et ce sera cette fois une série en 4 tomes, quoi, si c'était pris.
Et 4 tomes avec des personnages aussi tordus que tes deux premières BD?
Non, pas aussi tordu, mais plutôt sombre, ouais.
Et est-ce que tu as en projet des albums en dehors de ton éditeur Ankama?
Pardon?
Est-ce que tu as des projets en dehors de ton éditeur?
Non. Non, non, pour l'instant, non, pas encore, quoi.
Bon, eh bien, Neyef, merci beaucoup, et puis bonne continuation, alors.
Et merci.
Neyef, donc, qui avait été interviewé par Thomas, c'était en janvier dernier pour ce goût, dont le premier tome donc était sorti aux éditions Ankama. Petite errata quand même tout à l'heure quand j'avais dit que le Tonga c'est 300 000 habitants, c'est 119 000 habitants.
Ouais.
Voilà, mais tout plein chaque année qui partent à cause de la montée inéluctable de l'eau. C'est-à-dire que les habitants, les joueurs de rugby qui sont d'un sérieux niveau vont en général jouer à l'étranger.
Bah ouais, non mais il faut
rien avoir.
Ouais, non mais.
Voilà, vous écoutez Radio FMR. Non, ça c'est ton truc. Alors
bon, d'accord.
On parlera tout à l'heure. Hein, tu en parles beaucoup mieux que moi. Vous écoutez Radio FMR. Il est midi et 37 minutes. C'est le supplément au week-end. Et moi je dis qu'on part à l'aveugle dans les sorties de bande dessinée. Du sport. J'ai dit à l'aveugle.
Ah d'accord, d'accord. Oui, non mais jamais.
Non,
jamais
mais c'est une vanne, humour, tout ça.
Alors, toujours chez Panini Comics dans la collection Les Grandes Sagas de Marvel. Alors, avant de vous en parler, il faut savoir que c'était hier ou aujourd'hui que Panini fête ses 50 ans. Car c'est en 1961 que, Panini, qui était un petit magasin et tout, a décidé, pour vendre ses produits, de rajouter des petites vignettes. Comme ça, hein, et des vignettes que les gamins se mettaient à collectionner. Attention, au départ, c'était pas des vignettes de footballeurs, parce que maintenant on connaît surtout les vignettes Panini de footballeurs, mais les vignettes Panini pour footballeurs, ça a commencé vraiment dans les années 70. Auparavant, eh bien, c'était des vignettes qu'on pouvait collectionner et qui représentaient absolument tout ce qu'on pouvait trouver dans le monde, mais qui n'était pas tellement courant. Alors, des animaux exotiques, des trucs comme ça. Après, il y a eu les collections sur les personnages de bande dessinée ou d'albums pour la jeunesse, plein de petites choses comme ça. Et le truc du football, c'est venu dans les années 70. Donc, bon anniversaire Panini, ça fait quand même 50 ans et ouais. Hein.
Voilà, on avait oublié la news.
Plus d'un milliard de vignettes vendues déjà,
oui,
quoi.
Oui, et ils sont passés aux vignettes à hologrammes, les vignettes musicales. Il y a même aux États-Unis, ils ont lancé des vignettes où en fait, animées. Avec des films carrément dedans, puisque en fait c'est un dispositif autocollant avec un petit écran très plat, une pile bouton et une mémoire, donc on appuie dessus et ça joue une petite vidéo qui dure 30 secondes, mais qui suffit tant à ravir tous les grands fans de football américain.
Ah bah oui,
les meilleures actions et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en France. Et ils sont lancés donc dans le comics relativement récemment, hein, il y a 15 ans.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Et notamment en reprenant d'abord DC et ensuite Marvel.
Et ensuite Marvel, ouais.
Voilà, et Marvel, ils en sont contents. Et je faisais la vanne tout à l'heure en introduction, donc on y va à l'aveugle.
À l'aveugle, donc avec ce numéro 8 des grandes sagas de Marvel qui est consacré, bien entendu, à Matt Murdock, le justicier aveugle Daredevil. Et déjà, le principe des grandes sagas, c'est bien entendu de vous raconter, de vous livrer une histoire complète, mais qui est parue à l'époque, en périodique, hein. C'est-à-dire que celle-ci, est parue dans les années 80.
Alors, un arc narratif.
Voilà, c'est un arc narratif, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les précédentes sagas étaient quand même plus récentes, on va dire. On remontait peut-être dans les années 90, fin des années 90, et surtout dans les 10 dernières années, hein, les années 2000, bien entendu. Mais il n'y avait pas eu d'incursion dans les années 80. Je pense que c'est pour une raison bien simple.
c'était surtout dû au graphisme, hein, qui est vraiment décalé. D'ailleurs, à propos du Thor que je vous avais sorti, qui était sorti en 99, déjà on voyait bien la différence du trait de John Romita en 99 avec son trait actuel. Hein, déjà, on voyait bien la différence.
Sachant que John Romita est junior, précise, et, puisque le père aussi dessine, ils ont énormément fait évoluer à chaque fois leur graphisme. Il a vraiment touché à tout bout, hein, en style.
Voilà. Alors là, eh bien, il s'agit d'un arc qui est sorti en 86. Qui est sorti exactement de février à août 86.
Ouh, c'est soit Frank Miller, soit Chris Claremont.
Et tu vois bien que reste encore dans le trait classique.
Je m'en souviens. Avec le tramage qu'on avait dans les éditions de Lug. Ah, c'était.
Voilà. Alors c'était
terrible.
Ouais. C'était sorti chez Strange à l'époque en version française. Et il faut savoir que je ménage le suspense. Et il faut savoir que Strange avait subi les foudres de la censure parce que cet arc à l'intérieur, il y avait vraiment des trucs qui étaient trop violents. Alors que Strange était quand même une publication pour la jeunesse. Et donc il s'était pris des pains dans la gueule et tout. Certaines planches avaient dû être retouchées. Ils ont retouché certaines planches pour les rendre moins violentes, hein, pour la version française. Et comme il y a eu vraiment une levée de bouclier quoi de la part des censeurs, eh bien les deux derniers épisodes n'étaient pas parus chez Strange. Ils avaient jeté l'éponge et dit non, on laisse tomber. Pourquoi ? Parce que le scénariste, c'est Frank Miller.
Ah, ouais, j'en avais un sur deux sur la finale là, dans la cinquième à Longchamp.
Et le dessin est de David Mazzucchelli. Et Frank Miller, à l'occasion de cet arc, eh bien, il nous plonge Daredevil dans carrément la déchéance.
Attends, passe.
Ouais, tu dois connaître certainement quoi.
Passe, parce que peut-être qu'il était déjà paru aux éditions Betty à une époque, cet arc-là.
Ouais, peut-être.
Oui, tout à fait. Il était paru aux éditions Betty en 97 à l'époque. Donc c'était Didier Passamonique, tiens, encore un ancien type d'actuel BD. Qu'il avait fait et je crois c'est cette scène donc c'est la page n'est pas numérotée
non,
en plein milieu
numéroté, hein.
En plein milieu où on a un homme qui est complètement ivre et une femme qui appelle parce que il se fait battre par sa femme et on voit un flingue des tranquillisants et de l'alcool qui ont été soigneusement gommés c'était vraiment la réécriture qu'à l'époque faisait Lug, ils étaient obligés de gommer au maximum c'est une scène qui est très connue justement puisque c'est un exemple de censure où là on a caviardé à mort dans le dessin qui était importé donc c'était sur le respect d'auteur et tout.
À fond, hein, parce que si tu regardes également cette image et tout, du sang, il y en a. Hein,
mais justement.
Ça dépote. Hein.
Elle n'y était pas. C'était noirci. Puisque le fond était noir, donc on a enlevé.
Alors, l'histoire de Stark est très simple de toute façon. Ça démarre par un Matt Murdock, ou pas, c'est même pas Matt Murdock au départ et tout, mais c'est son ex-petite copine Karen Page qui l'a largué en fait qui était sa secrétaire mais qui l'a largué pour faire une carrière d'actrice mais elle tombe dans la dope quoi donc forcément elle est un petit peu vulnérable et c'est elle qui vend la mèche quant à l'identité secrète de Daredevil et ça eh bien ça tombe dans les mains du plus grand ennemi de
Pinkin,
Daredevil
le Crotard
le Kaïd donc le Kaïd sait que Matt Murdock est Daredevil et inversement bien sûr le Kaïd va tout faire pour enfoncer Matt Murdock, pour enfoncer pour enfoncer Daredevil. Et au début, Matt Murdock, l'avocat, tombe de haut parce qu'il est cité à comparaître par un grand jury. Ensuite, sa banque lui réclame des traites impayées alors que lui, il a toujours tenu sa comptabilité à jour sans problème. Son téléphone est coupé, l'électricité est coupée, enfin, vraiment là, la catastrophe au départ, c'est-à-dire, il va même se retrouver à la rue, je vais pas en dévoiler de trop, hein, de toute façon, quoi, hein, Clodo, quoi, je couche dans les ordures et tout, quoi. Bref, c'est l'histoire d'une descente aux enfers et d'une remontée spectaculaire dans les règles de l'art orchestré par Frank Miller. C'est vraiment du grand art, là, il n'y a pas de problème. Bon, certains d'entre vous qui ne sont pas habitués aux vieilles BD, aux vieux formats, aux vieux cadrages, vont être un petit peu choqués par rapport à ce qui se fait maintenant, hein, parce que là, c'est quand même, ça a l'air corseté, on va dire, hein, par rapport à ce qu'on fait actuellement, quoi, au niveau graphisme. Mais Au niveau histoire, au niveau scénario, c'est là que vous en prenez plein la gueule, une bonne baffe dans la gueule.
Oui, c'est assez noir.
Ouais, franchement, c'est vraiment très, très noir.
Il faut le dire, c'était pour la BD pour adolescentes. Enfin, Frank Miller, il était allé à fond. Il a remis après le couvert avec Dark Knight, le vrai, hein, la BD. Hein, je parle pas des films de ce côté-là. C'est, enfin voilà, on est vraiment dans un album qui est extrêmement mature, puisque là l'idée c'est vraiment réécrire l'histoire des personnages qui soient beaucoup moins gnangnans, et là il est allé mais à fond,
ouais,
c'est un grand moment. Donc c'était déjà édité à l'époque effectivement en France en 97, mais c'est une réédition qui est bienvenue. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ça vaut vraiment le détour.
Voilà, ouais.
C'est une grosse baffe.
Ouais, c'était sorti à l'époque de février à août 86 dans la version originale
aux États-Unis.
D'accord. Et donc l'arc s'appelle en français Renaissance, donc il y a 7 parties. Mais dans la version originale, chaque fois un titre différent. Ça commence par Apocalypse, ensuite Purgatory, ensuite Paria, ensuite Born Again, Saved, God and Country et Armageddon. Rien que ça, rien que les titres, ça vous donne déjà une petite idée de ce que Frank Miller a voulu faire avec notre ami Matt Murdock, alias Daredevil. Donc je rappelle, c'est le numéro 8 des... Alors dépêchez-vous, parce que normalement ça court jusqu'au 4 octobre. Bon, ben, les kiosquiers sont un petit peu en retard, laissent les anciens numéros en truc pour les vendre. De ce côté, il y a un petit peu, pas de laxisme, enfin bon, de... Non, parce que bon, ben, en principe ils devraient le retourner, quoi, mais bon, ils préfèrent le garder encore un petit peu pour qu'il y ait des gens qui puissent le choper.
Disons que tu as des accords avec certains d'entre eux.
Voilà, et ça vaut le coup, donc, parce que va sortir... Bah, je pense dès lundi ou mardi, dans vos kiosques, vous trouverez le numéro 9 avec les Vengeurs. Mais si je ne m'abuse, tu as encore de la bande dessinée, Xavier ?
Oui.
Ah, bah très bien.
Il faut juste un peu de temps, je ménage une pause, attends... On a été costaud, il y a deux. Avec de la manga, ça, avec Keitsu Shia qui réalise le scénario, donc les fameux Tenmu, et Nono Yamasaki qui fait le dessin. Enma, le premier tome, donc, est sorti dans la collection d'Arcana, une collection ado-adulte des éditions Kana. Enma, c'est une fille au grand regard vide, envoyée par le roi Enma, l'un des 10 rois juges des enfers, car son tribunal des âmes croule sous le nombre des dossiers à traiter. Il faut drastiquement réduire le nombre de morts, car sinon, Enma ne pourra jamais traiter en toute justice chaque âme qui se présente au tribunal. C'est pour ça qu'il envoie une de ses créatures dans le monde des humains, afin de réduire le nombre de morts. Cette créature a mandat pour tuer tout fauteur de meurtre, crime, épidémie, négligence, si elle ne peut faire autrement. Et elle le fait en retirant tous les os de ses victimes d'un coup. Tous, sauf un nombre égal d'os, par nombre de personnes qui tiennent à la victime. C'est la compassion du roi Enma. Cette fable terrifiante est racontée par une petite fille qui se dit prénommée Enma. Et qu'elle ose dire devant l'un des plus grands bouchers que le Japon du 15e siècle ait connu, le seigneur Onimasa. Devant tant d'affabulations, on s'attend à ce qu'elle se fasse décapiter, c'est en se tenant d'un coup sec de katana. Mais le destin d'Onimasa est plus complexe qu'il n'y paraît. Il l'a fait enfermer dans une prison ouverte, Amacha, la très jeune fille du seigneur Averse. Amacha, pardon, excusez-moi, erreur de prononciation. Car malgré le sang qui macule les planches de son château, Onimasa ressemble avoir de l'amour dans son cœur. Alors, Enma, cette modeste servante aux propos effrontés, est-elle vraiment ce qu'elle prétend être ? Bien sûr que oui, mais toute la question sera de savoir si elle fera éviter une guerre de plus par la persuasion ou par son impressionnante mise à mort sortant un squelette de la tête. En fait, c'est la première histoire chapitre. Les autres passent à différentes époques, sur d'autres continents, c'est-à-dire ça, on va dans l'Inde sous l'occupation anglaise au 19e siècle, on va aussi, si je me trompe, à l'époque des pirates, on va vraiment à différents endroits. C'est vraiment intéressant et vraiment bien amené. Et à chaque fois, on a là aussi un nombre quantifiable d'âmes qui vont être subitement arrachées au monde des humains, et Enma est envoyée comme un charme pour l'éviter. Étant une créature créée, elle est neutre, comme les plateaux de la justice, ne comprend pas les choses de l'amour. Son impartialité en fait le témoin de... En fait, le témoin des actes, et de là, elle ne peut décider, elle peut décider d'appliquer son horrible jugement d'un coup. T'es là, ben voilà, je vais retirer ton âme, je vais retirer tes os, pardon, et j'ai laissé ton corps flasque et tu vas mourir instantanément. Ou non, ce sera à toi en fonction de ce que tu vas décider, ce qui va se passer. Alors si l'histoire que raconte Enma sur son employeur peut sembler horrifique, on est surpris par la douceur, les sentiments, les histoires sont belles en général, et les personnages pas si négatifs que ça, c'est ça qui est vraiment intéressant quand même dans cette série, en cela, bah ouais, non, franchement, c'est vraiment bien et sympa, et ça vaut le coup. Moi je trouve, franchement, ça... Ça a été le premier tome et une partie du deuxième tome utilisent toujours le même canevas scénaristique, puisque on met en situation Enma, on met en situation qui est la personne qui est la cible, on met en situation ben justement ce qu'il peut mettre, etc. Et ensuite, et ben donc, est-ce que oui ou non il y aura jugement. Mais après, il y a une évolution. Et l'idée qui était intéressante au début et casse-gueule pour le dessinateur Nono Yamasaki, puisqu'il doit changer les décors, les habits, à chaque époque, à chaque lieu, et ben ça promet une belle variété de situations sur la suite. En soi, Enma est une série qui peut se devenir passionnante, justement par un changement de formatage et parce qu'il travaille sur différentes situations. Ken Tuchiyama au scénario, Nono Yamasaki au dessin, c'est dans la collection d'Arcana, qui est une collection ados, jeunes adultes, chez Kana, et ça s'appelle Enma, et franchement, ben ouais, c'est un polar fantastique qui est vraiment sympa. On arrête là les sorties, hein. Quand même, on avait un gros stock d'actualité, mine de rien, mais je vous propose une petite pause musicale avec Kinobe. Et le morceau s'appelle, je ne sais pas, tiens, je l'ai pris complètement au hasard, ça n'a rien à voir avec ce matin. Grassroots Horizons. C'était beau, c'était beau comme un 19 à 14 face au Tonga. Donc c'était excusez-moi, Kinobe Grassroots Horizons. Je mets une belle basse là.
Et tu vas pouvoir mettre le bip là bientôt.
Ah oui, non mais t'inquiète, il est prêt. Du sport, je vous dis pas comme il se mord les doigts parce qu'hier il a zappé sur Arte, mais bon.
Ah ouais.
Et tu l'as oublié.
Ah ouais, j'ai complètement oublié de nous en parler, là je suis dégoûté quoi, dégoûté. Enfin bon, pour ceux qui étaient sur Arte hier soir, je pense que ils ont été ravis hein, par ce super téléfilm. J'ai bien regardé si, parce que généralement sur Arte il y a toujours des rediffusions. Mais là, bon bah cette semaine, la semaine qui vient jusqu'à vendredi prochain, non, il n'y a pas la rediffusion de cet excellent téléfilm en deux parties de la BBC.
Est-ce que c'était indiqué que ça passait sur le plus 7 hein, le truc, la rediff
d'Arte? Oui. Hein, donc vidéo on demande Arte VOD, Arte VOD, ça s'appelle. Il y a pas de problème quoi.
Donc si vous avez une beau box ADSL, vous pouvez vous le revoir tranquille sur la téloche.
Voilà, ou alors vous pouvez le regarder sur votre ordinateur, sur le net. Hein, ça c'est sans problème, comme la plupart des programmes d'Arte d'ailleurs. Suivi en plus par un documentaire consacré au PTSD post-traumatic syndrome stress.
Post-traumatic stress syndrome.
Stress syndrome, voilà. On avait des témoignages d'anciens GI, d'anciens personnels soignants qui sont partis en Irak, qui sont revenus, et ce qu'ils ont vu là-bas, c'était à voir. Je continuerai à regarder dans les programmes, voir s'il y a une espèce de rediffusion. En tout cas, c'était vraiment très très bien. Sinon, bon bah reparlons maintenant, des séries
du
qui
futur,
vont
vers le futur et l'avenir et les programmes de ce soir.
Avec quelques séries, il n'y a pas vraiment de séries inédites, hein, mais ce sont des séries qui sont qui ont déjà été mises en route, mais dont ce sont peut-être des saisons inédites ou des épisodes inédits. Déjà lundi sur 13e rue à 20h40, la saison 2 de Rookie Blue, c'est une série canadienne. Créé par trois nanas. Alors ça sert assez rare quand même, hein, que ce soit uniquement des personnes, que des nanas qui arrivent et ben à mettre sur la table d'une grande chaîne de télé, j'ai un projet, hop, vas-y finance-moi ça, et que ça fonctionne. Hein, à ma connaissance, il y en a pas tellement que ça. Hein, généralement,
c'est
toujours
dommage.
Un mec dans le coin.
Ouais,
et puis bon, bah là, on voit que ça fonctionne bien. La première saison de Rookie Blue. Alors Rookie Blue, c'est très simple. Ça raconte, comme son titre l'indique. Rookie, hein,
c'est
le bleu.
Débutant, c'est
un débutant, quoi. Voilà. Hein, d'accord, c'est sa première année.
C'est un...
Et blue, généralement, dans le langage nord-américain, ça signifie les flics, quoi. C'est-à-dire, bah, parce que l'uniforme est bleu, tout simplement. Hein. On avait NYPD blue également, puisque bon, bah, ils sont bleus. Là, c'est pareil, rookie blue. Donc, et ça raconte les premiers pas de cinq jeunes qui ont passé l'école de police et tout, et qui sont qui arrivent dans un commissariat et qui sont confrontés à ce qui se passe vraiment au vrai boulot. Hein. Alors bon, bah dans la première saison, bah c'est assez rigolo parce que c'est pas une série policière dans laquelle l'enquête policière ou la résolution d'enquête ou l'arrestation de criminels est le truc principal. Ça fonctionne un petit peu comme Grey's Anatomy, si tu veux, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un univers assez clos, le Grey's Anatomy, l'hôpital. Ici, commissariat de police plus le maintien de l'ordre à l'extérieur. Mais on s'attache plus aux relations entre les différents personnages.
Ce qu'était Captain Fury, au finalement.
Oui, aussi. Oui, Hill Street Blues, quoi.
Ouais. Encore des bleus.
Ouais. Enfin, pas que, il n'y avait pas que ça, quoi. Mais ça fonctionne pas mal. Autant Grey's Anatomy, moi, ça me fait royalement chier depuis le départ. Et bon, bah, ok, mais c'est mon avis personnel.
Ça, maintenant,
d'accord,
vous le savez,
okay.
C'est dit.
Hein, autant Rookie Blue, c'est assez plaisant à regarder. Bon, c'est pas une énorme série, c'est pas une grande série, c'est pas un chef-d'œuvre, mais on passe un bon moment, de toute façon, avec cette série. Et avec un petit cliffhanger à la fin de la saison 1 qui vaut le coup, qui incite justement à continuer à regarder la série et sa saison 2. Avec donc dans les rôles principaux de ces 5 rookies, Missy Peregrim, Charlotte Sullivan, Enuka Okuma, Gregory Smith et Travis Milne. Donc c'est sur 13e rue à partir de lundi prochain à 20h40, Rookie Blue saison 2. Une autre série qui avait été diffusée en première diffusion sur Orange, je me rappelle pas laquelle, mais enfin bon, sur une des chaînes du réseau Orange, donc invisible pour la majeure partie des téléspectateurs et téléspectatrices.
Orange Cinéglou.
Ouais, et qui est là rediffusée, mais par une chaîne qui est plus accessible, Direct Star, c'est Underbelly, une série australienne. Qui revient sur un épisode de réel qui a eu lieu en Australie, la ville je m'en rappelle pas, mais qui raconte l'histoire d'une guerre de gangs qui a duré des années et des années et des années. Et au départ, eh bien, ce sont des journalistes qui ont suivi cette guerre des gangs, et c'est le résultat de l'enquête de ces journalistes qui a donné le fil rouge au scénariste pour écrire Underbelly. Donc il s'inspire vraiment de ces faits réels qui sont arrivés en Australie. Alors c'est violent, c'est sans concession, c'est du rentre-dedans à fond les manettes, c'est vachement bien foutu, toutes les critiques sont assez unanimes de ce côté-là. Bon, mais seulement ça reste quelque chose de très 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 adulte. Donc c'est à suivre sur Direct Star à partir de lundi prochain, 22h20.
Et en France, Olivier Marchal s'inspire des superflus. Manque de bol, il semblerait que justement il soit aussi un voyou.
Aïe. Qu'est-ce qu'il va nous trouver là, Olivier? Allez, cherche bien.
Bon, à mon avis, il y aura l'équipe de Law and Order qui sera sur le coup avant.
Ah, peut-être.
Ils sont rapides.
On fera un concours de cravate.
Ils sont rapides. Ah, quoi qu'hier, un flic, c'était sur un thème d'actualité, c'était bien amené. Très bonne écriture.
Le Pink Panther, là.
Ouais. Ah, tu l'as vu toi aussi?
Ah, non, je regardais Occupation. Je pouvais pas regarder deux trucs en même temps.
Vive les différés.
Un flic dont justement il y a un autre inédit qui passe vendredi prochain.
Avec donc c'est un nouvel acteur hein, par contre il faut le dire. Ouais, ouais. Mais quand il dit autorité j'écoute. Moi c'est... je suis là chez ma copine qui fait hey!
Alors le titre de ce téléfilm vendredi prochain à 20h35 sur France 2 c'est Jackpot donc dans la série Un flic. On a également ce soir eh bien deux séries inédites dont je vous ai déjà parlé samedi dernier. Hercule Poirot déjà qui revient sur TMC avec un nouvel inédit d'Hercule Poirot, toujours David Suchet bien entendu, et là c'est très récent, hein, c'est 2011, donc c'est à peine diffusé en Angleterre, hop, ça part, ça oui, passe chez nous.
Ah mais il tourne encore.
Ah oui, ça continue, donc trois actes, c'est ce soir à partir de 20h40 sur TMC, un nouvel Hercule Poirot. Et sur Canal Jimmy, eh bien Claire Blake, police criminelle de Londres. Alors bon, on avait un petit peu rigolé samedi dernier, quoi, parce que bon, c'est une série qui date quand même. C'est pas vraiment une série, c'est une série de téléfilms. Mm. C'est-à-dire que ce sont des téléfilms d'1h30, mais
regroupés en pack, un peu comme on fait en France. Hein, voilà. Malheureusement, de ce côté-là, ça donne des saisons qui sont très très courtes, un peu trop. Mais oui. Qualitativement, en écriture, en mise en scène,
Ouais, on y gagne un petit peu hein, quand même. Ouais. Quoi. C'est-à-dire que les scénarios, ils ont plus le temps de délayer, de rajouter des petits détails, des petits trucs comme ça. Alors déjà, celui de samedi dernier, c'était pas mal, quoi, parce que bon, Claire Black, interprétée par Amanda Burton, bon, ça en prend plein la gueule, mais alors, grave, ouais. C'est assez violent quand même, faut le dire. On n'est pas tellement habitué à ce genre de trucs dans les téléfilms anglais. Quoique, crime, meurtre sur la Tamise et tout, quoi, c'est quand même des fois assez violent. Là, c'est pas mal, hein, c'est assez rentre-dedans, mais bon, on reconnaît la faconde, on reconnaît la patte des auteurs anglais, des réalisateurs anglais et, bien entendu, des interprètes. C'est ce soir, donc, Claire Blake, police criminelle de Londres, sur Canal Jimmy à partir de 20h40.
Mais écoute, la musique Cowboy Bebop. D'ailleurs, je suis en train de me regarder Samurai Champloo. Il y a le résumé. Si vous avez manqué les quatre derniers épisodes, ça passe demain. Sur non, je ne le dirai pas. Mais là, c'est du hip-hop. Franchement, ça t'éclaterait à fond.
Ah, sur No Life.
Ouais, franchement, ça t'éclaterait à fond parce que c'est une bande son hip-hop et tout. Mais ça a été vu et revu sur toutes les chaînes. Enfin, sur pas mal de chaînes. Sauf que là, c'est diffusé en VO et voilà quoi. La qualité, interprétation, les acteurs, parce qu'ils font vraiment le style Chambara dans la prononciation et tout, c'est agréable, vraiment, sincèrement.
Alors à présent des films à la télé pour cette semaine à venir.
Miam, miam, miam.
Alors ce soir, ce soir deux téléfilms en fait.
Oui, on est samedi.
Ouais, mais enfin bon,
ils ont le droit à partir de 22h30.
Oui, mais c'est deux téléfilms sur des chaînes de ciné.
Oui, aussi, puisque eux aussi, ils n'ont pas le droit de commencer par un film, hein, normalement. Hein. Ils doivent attendre une première...
Si, ils peuvent.
Ils peuvent pas que ça soit en prime time. Il faut que ça soit la deuxième partie.
Si, ils peuvent, à condition que ce soit une...
Un vieux truc. Hein.
Non, que ce soit pas sur un bouquet généraliste, mais que ce soit des chaînes en option. Des chaînes payantes en option, dans ce cas. Bon, et justement, toute la série des Ciné+, rentre dans ce cas de figure. Et donc on peut avoir des films de temps en temps. Là il s'agit de deux téléfilms. Le premier ce soir à 20h40 sur Ciné+ Premier, Vision Trouble de Charles Bisson, un film anglais avec Clive Owen en 99. On le connaissait pas du tout. Il était bien jeune et tout, il a la même gueule, il y a pas de problème et tout. Il y a également Claire Skinner, une histoire de deux flics dont l'un est aveugle. Et donc les deux flics vont travailler en tandem. Hein, pour essayer de découvrir qui est l'assassin d'un jeune garçon qui a été retrouvé poignardé, massacré dans un appartement.
Personne
c'est ce soir à 20h40.
Personne n'a touché à la scène de crime. Non, la blague est nulle, je suis désolé.
Sur Ciné+ Club, ce soir à 20h40 également, un téléfilm qui fait partie d'une série de téléfilms qu'on avait vu sur France 3 le dimanche soir très tard et des trucs originaux vraiment bien foutus qui s'appelle Suite Noire. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc.
Oui. C'était vraiment de très très bonne écriture. Ouais. Mais je crois qu'il y avait les auteurs du Poulpe hein, qui avaient participé.
Entre autres. Entre autres. Et là, eh bien, on nous rediffuse Quand la ville dort. Mort, pardon. chaque fois je me plante. Hein. J'ai même marqué quand la ville d'or au départ, j'ai dû
raturer.
Raturer et tout quoi. Quand la ville d'or, alors c'est l'histoire d'une jeune blaquette sans papier dans les rues de Paris, interprétée par Aïssa Maïga, et qui, bon, pour se planquer, est obligée de faire appel à des gens plus ou moins de la même ethnie qu'elle, enfin bon, communautarisme et tout, mais seulement, bon, bah, elle va se retrouver emmêlée dans des histoires pas possibles et tout, elle va être prise sous la coupe d'un souteneur, tout ça, mais bon, bah, au bout d'un moment, elle va craquer, et puis bon, ça va très mal se terminer. C'est vraiment très très bien foutu, ça vaut vraiment le coup. Alors, outre Aïssa Maïga, dans ce téléfilm de la Suite Noire, on a également Samir Ghesmi à Sansec, donc, et c'est vraiment très très bien. Là, c'est pour une fois que de temps en temps la télé française peut nous proposer une série de téléfilms
de qualité,
comme
ouais.
ça de qualité, ben allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est sur Signé Plus Club ce soir à 20h40.
Juste une chose, j'ai fait une mauvaise blague tout à l'heure sur les aveugles et tout. Je tiens à signaler quand même qu'on a un animateur qui est aveugle, qui fait une émission d'excellente tenue sur Radio FMR et qui en plus nous écoute, donc j'espère qu'il est pas offensé. Je pense que quand même il a pris un petit peu à la rigolade la vanne, je suis désolé. Voilà.
Buddy, si tu nous écoutes.
Ouais, quand même.
Enfin, c'est pas moi, c'est Xavier. Hein. Ah, démerde-toi avec lui. Vous verrez ça lundi soir.
Tu peux me donner des coups de bâton, hein.
D'accord.
Oh, oui.
De canne blanche. Bon, allez. On n'en rajoute pas. Demain, eh bien, retour aux fondamentaux. Avec sur W9, 22h40, Urban Justice de Don Fauntleroy et un Steven Seagal assez en pleine forme, mais pas trop. Hein, le film, téléfilm, c'est un DTV, date de 2007. Et outre Steven, on a également Eddie Griffin et Carmen Serrano.
Moi, je me méfie quand il fait la justice parce qu'il est capable de débarquer chez les gens en 30.
mais
quoi, c'était pas un film, hein, non.
Alors, demain également sur Energy 12 à 20h. Alors, Energy 12 qui nous fait une soirée bourrin, il n'y a pas de problème. Hein. Deux films bien bourrins.
Bourrin, bien canasson.
Le premier.
Virgin 12, t'es sûr?
Energy 12, j'ai dit.
J'ai entendu Verdi.
Ah non, j'ai dit Energy 12. Le premier à 20h35, Course à la mort, la reprise, le remake hein, de Paul Anderson avec Jason Statham, John Allen, Ian McShane. Et à 22h35, un petit Stallone, Judge Dredd. Bon, c'est pas le meilleur.
Il est rigolo.
Mais c'est rigolo. Hein, regardez
le
second degré, puis y a pas de problème, ça passe très bien.
Hein. Ouais. Va te faire foutre. J'étais sûr de dire ça.
Ouais. Direct 8 vous propose à 20h40, ah là c'est du bon, c'est du lourd, hein. Le bateau Das Boot de Wolfgang Petersen, le film qu'il a fait découvrir à l'étranger avec Jürgen Prochnow et Herben Grönemeyer entre autres. Alors le titre est trompeur parce que tout se passe dans un sous-marin.
Voilà, c'est un U96 si je me souviens. 98 pardon.
Voilà.
Alors c'est quel montage, puisqu'il y a deux montages, il y a une version courte,
version longue.
Ce qui me fait beaucoup rire puisque au moment où le film était sorti, ils avaient sorti un remix techno qui d'ailleurs cartonnait hein, musicalement, qui était d'enfer, alors que dans le film on a juste une version orchestrale extrêmement tragique. Et le film vaut vraiment le coup. Puis, si vous retombez sur la musique, c'est toute une époque, hein, mais bon, c'est autre chose. Mais par contre, le film est putain de polar. Très très bonne
qualité. Ouais. Sur TCM demain à 20h40, L'île au trésor de Victor Fleming en 1934 avec Wallace Beery. Mmh. Dans le rôle de Long John Silver, Jackie Cooper, Lionel Barrymore.
Je sais, je m'en souviens, j'étais allé le voir au moment de sa sortie au cinéma, il était super.
Ouais, en 1934, c'est ça. Et Victor Fleming, tu sais bien entendu qui c'est.
Bah je crois que c'est, il a un rapport avec Ian Fleming, mais je sais plus lequel.
Absolument pas.
Non.
Absolument pas. Victor Fleming, qui à l'occasion de ce film,
je l'ai engagé sur la bio.
Victor Fleming, à l'occasion de ce film, était encore un des bons metteur en scène de Hollywood, mais à la fin des années 30, début des années 40, c'est le réalisateur à succès de Hollywood. Pourquoi ? Il vient de terminer Le Magicien d'Oz.
Ah oui.
Et le réalisateur qui est sur Autant en emporte-vent se fait dégager et remplacé par Victor Fleming.
Oui, il était directeur de la photo d'ailleurs au bout d'un moment, je crois, et il se retrouvait à faire un film. Si je me trompe, c'est pas lui qui a fait La Terre s'arrêta.
Non.
Je sais qu'après, il y avait une histoire comme quoi il a fait un film de SF relativement discret.
Je vérifierai ça, je te dirai ça la prochaine fois. Donc c'est L'île au trésor, hein, tout, c'est une excellente version, hein, 1934.
Non,
donc
sérieux, c'est sur TCM. Sérieux, vraiment bien.
Ouais, non, c'est vraiment bien. Sur TCM, donc demain à 20h40. Et c'est suivi à 22h20 par Le danseur du dessus de Marc Sandrich en 1935. Et films.
C'est pas, en VO, c'est pas le Top Hat?
Non, je crois pas.
Mm-hmm.
Non, parce que
c'est
le
comédie
deuxième,
musicale.
C'est le deuxième de la série des 9 films que Fred Astaire et Ginger Rogers font tourner ensemble. Ginger Rogers, qui a une carrière absolument magnifique, 90 films. Ce n'est pas uniquement une actrice de comédie musicale, elle a également joué dans des films classiques, dans les années 50. Elle a arrêté sa carrière cinématographique en 1960, pour ne se consacrer qu'à la scène. Elle venait de la scène, d'ailleurs, hein, elle vient d'un petit bled Fort Worth, au Texas, et elle gagne un concours de Charleston à l'âge de 14 ans.
Ouais.
Elle monte
elle
à New York.
Elle est monstrueuse, techniquement. Justement, je parlais de Top Hat, justement, avec Fred Astaire, où là, elle montre un brio de danse, un truc, justement, entre Charleston et claquettes. C'est hallucinant, techniquement, quand on sait qu'il y a des plans qui sont pris en une fois, on voit la performance physique et d'acteur et de chant, c'est hallucinant. Franchement, c'est très très bien, quoi.
Ouais.
C'est un bon spectacle.
Ouais. Elle monte donc à New York à l'âge de 19 ans. Elle se fait engager dans des comédies musicales sur Broadway. Et c'est elle qui est crée le. Et je me rappelle pas du titre, mais Girl Crazy. Voilà, Girl Crazy. La comédie musicale de George et Ira Gershwin, elle fait partie de la création de ce truc sur Broadway. Elle se fait remarquer, bien entendu, par les cinéastes. Elle commence par des petits seconds rôles où pratiquement elle éclipse les premiers rôles par sa technique de danse et par son aptitude à jouer. Et c'est là qu'elle forme son premier duo avec Fred Astaire, mais en tant que second rôle. Fred Astaire qui vient également de Broadway. Hein, qui vient du même endroit d'elle, endroit qu'elle, et est également pour l'instant au départ un second rôle qui vient comme ça, quoi.
Et si vous êtes vraiment fan de Ginger Rogers et vous passez par Londres, sachez que il y a une exposition de photographies notamment de Clark Gable, James Dean et notamment Ginger Rogers. Donc c'est à la National Portrait Gallery, Glamours of the Girls Hollywood Portrait. Et donc d'ailleurs je sais plus où c'est exactement dans le monde. Voilà, donc c'est en ce moment. Vous êtes tenu au courant.
Voilà, donc c'est Le danseur du dessus, c'est sur TCM demain à partir de 22h20. Et c'est dans le cadre d'une rétrospective et d'une diffusion intégrale de tous les films de Ginger Rogers sur TCM un mois.
Oh merde, hein, j'ai loupé les premiers alors.
Donc il y a du boulot.
Je crois qu'il y en a une qui va avoir mal à la tête à force parce que ça va y aller à fond.
Lundi sur Arte. Alors ça c'est vachement bien parce que moi je l'ai en vieille cassette vidéo que je sais même
en
plus si elle fonctionne. Ouais tu sais un truc.
En quoi?
En VHS.
En quoi?
En VHS. Ouais. Et que j'avais déjà enregistré à l'époque sur cette même chaîne d'ailleurs.
Mais à l'époque il y avait pas les logos qui gâchaient l'image.
Et ça donc le film du lundi soir sur Arte, en fait c'est un film c'est deux films. Et muet, 1924, les Nibelungen de Fritz Lang, tourné en 1924, donc deux films hein, de plus de deux heures chaque film. Premier, La mort de Siegfried.
Fritz Lang avait fait la tétralogie.
Bien sûr.
Merde,
en muet, en 1924, et le deuxième à 23h, donc La vengeance de Kriemhild.
Oh mince.
À la fin de cette vengeance de Kriemhild, donc à 1h15 du matin, eh bien, un petit documentaire inédit et récent, 2011, fait par Guido Altendorf et Anke Wilkening, sur ce tournage des Nibelungen dans les studios allemands. C'est une des premières super productions du cinéma. Enfin, surtout en Allemagne. En Allemagne, c'est sûr.
Attends, le docteur Caligari, c'était quand?
Oui, mais super production, parce que si tu as vu, c'est Nibelungen, t'as des figurants, t'as des putains de décors, t'as des trucs, c'est incroyable. Hein. On a dépensé vachement d'argent pour filmer tous ces trucs-là, et ça dure plus de 4 heures, ça dure près de 5 heures, hein, les deux films, quoi. Donc c'est vraiment un truc assez énorme, et donc c'est la légende des Nibelungen, qu'on connaît plus ou moins, hein, Siegfried, toute la bande, donc et c'est à voir absolument. Là, c'est vraiment énorme, hein, et c'est une bonne chose qu'Arte le rediffuse en prime time d'ailleurs. Lundi, on a également là de nouveau du bourrin avec sur RTL9 à 22h35 Mort subite de Peter Iams avec JCVD et Powers Boost,
déjà multidiffusé.
Oui, JCVD en pompier. Bah ouais. Sur France 4 à 22h15 lundi, Fugue de Steve Wang avec Marc Dacascos et Piper Ferguson. Sur NRJ 12 à un inédit à la télé et certaines beaux cinémas.
Oh,
à 20h35, In Hell. Alors, ce qui est assez étonnant, hein, c'est In Hell, c'est de Ringo Lam. Ringo Lam, donc, on connaît quand même, hein, 2003, avec JCVD et Laurence Taylor. Ça se passe à Moscou, dans une prison. Et donc, c'est Ringo Lam qui filme. Et JCVD, qui arrive là-dedans, il a rien demandé et tout, quoi. Mais bon, à la prison, ça va être très trash, parce qu'il faut pas l'emmerder, JCVD, quoi. C'est In Hell, donc, sur NRJ 12, le lundi, inédit à la télé, donc, à 20h35.
Surtout ne l'excitez pas, il va vous sortir la philosophie.
Suivi à 22h35 par un autre JCVD, Point d'impact de Bob Misiorowski, tourné en 2002.
Tu écris comment, point?
Point d'impact, P-O-I-N-T.
Ah, d'accord, ok. Ouais. Je me suis trompé.
Ah oui, quand même. Et sur Sci-Fi, toujours lundi, à 22h25, c'est le nanar animalier de la semaine. Mégapython versus Gatoroids de Marie Lambert. Alors, si tu de Marie Lambert, c'est ça qui est le plus étonnant quand même. Alors, c'est pas tellement le scénario complètement idiot où t'as un espèce de gros python qui vient envahir la Floride et tout, quoi, que pour le combattre, il décide de créer des alligators mutants. Tu vois, c'est pas tellement ça. C'est le fait que ce soit Marie Lambert qui soit la réalisatrice de ce film, on va dire. Marie Lambert, qui a quand même une carrière classique, qui a quand même fait de bons films, on va dire. J'ai pas eu le temps de rechercher. C'est quand même elle qui nous fait une excellente version de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais vu du côté de la servante. C'est la servante de Dr. Jekyll qui est le personnage principal, en fait. Je me rappelle pas le nom de ce film, mais c'était vraiment
Kelly?
Voilà, c'est ça. Voilà. Mmh. Et donc, elle fait des films comme ça et maintenant tu la retrouves à faire Mégapython versus Gatoroid.
À mon avis, soit elle s'est fait tricard quelque part, soit elle a des impôts à payer très vite.
Peut-être.
Soit une soirée de beuverie, un pari stupide.
Ouais, peut-être. Peut-être. Elle s'est trompée de porte de studio, quoi. Mardi sur RTL9 à 20h35, JCVD Forever, Time Cop de Peter Iams. Bon, celui-là, il est bien, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est sympa,
oui,
quoi.
Il y a un scénario.
Il y a un scénario, même si des fois, c'est un petit peu, on se demande, quoi. Mais bon, ça va, ça passe la route quand même, quoi. Bah, de toute façon, dès qu'il y a des paradoxes temporels, c'est toujours pas évident, de toute façon. Mardi également sur Ciné Plus Classique à 20h40, Le Survivant des Monts Lointains. Titre français, parce que le titre original c'est Night Passage de James Nilsson en 1957. C'est un western et James Nilsson, comme spécialité, il s'est fait que du western. Et quand il faisait pas du western, à part son dernier film qui est vraiment un polar pur et dur, quoi, en 1970, qui s'appelle Flare Up, tueur de filles dans la version française. Arthur Nilsson, un mec qu'on peut retrouver à la réalisation de beaucoup de Disney. D'ailleurs, si vous regardez Disney Channel, Disney machin et tout, quoi, vous aurez souvent des vieux films qui sont réalisés par James Nilsson, qui a commencé donc par ce Survivant des Monts Lointains en 1957 et qui arrête sa carrière en 1970, 13 ans plus tard. Et puis, il continue à tourner, mais pour Disney, des petits trucs, pas pour le cinéma.
Ça va, maintenant, je fais plein de cauchemars, donc maintenant je vais faire que des trucs girly.
Mercredi sur Canal Plus Cinéma. Alors là, c'est un film que je vous avais chroniqué il y a 2 ans, me semble-t-il. C'était mon polar de l'été. Zelda 211, Cellule 211 de Daniel Monzon en 2009 avec Carlos Bardem, Luis Tosar, une histoire de jeune maton fraîchement débarqué dans une prison qui en plus il devait pas être là ce jour-là quoi puisque c'est juste le jour où il vient visiter et tout, il doit prendre embaucher le lendemain. Tu vois, et c'est au même moment quoi qu'il y a une émeute qu'il est obligé de se planquer. Qu'il est obligé de se planquer et tout et de se faire passer pour un prisonnier parce que sinon il va se faire rétamer la gueule par les prisonniers qui ont carrément investi toute la prison hein, et qui tiennent des gardiens en otage et tout le bordel et qui ont des revendications bien entendu légitimes on va dire plus de bouffe plus de enfin bon tout ça mais alors c'est un truc rentre dedans et tout c'est un film de prison absolument excellent c'est très dur c'est très violent et on a surtout une interprétation magistrale de Carlos Bardem et surtout de Luis Tosar qui est là énorme donc Cellule 211 c'est mercredi prochain sur Canal Plus Cinéma, ce sera rediffusé. Là, c'est la première diffusion. Ce film de Daniel Monzon à 20h45, donc mercredi prochain. Sinon, sur RTL 9, mercredi prochain à 20h35, Terminal Velocity. Moi, j'aime bien ce film de Darren Sarafian avec Charlie Sheen et Natasha Kinski, une espèce de road movie, de course-poursuite comme ça quoi, mais c'est bien foutu quoi. NT1 vous propose mercredi prochain 22h20. Sous haute protection de Connie Waxman avec Steven Seagal bien sûr ou alors sur Syfy mercredi prochain vous pouvez vous re-regarder ou regarder si vous n'avez jamais vu à 20h45 Land of the Dead de George Romero celui où là les morts vivants là ils sont
rapides.
En pleine forme hein.
Ouais.
Là ils courent et tout, il y a pas de problème.
Ils sont véloces. Hein.
Ouais, ils sont véloces et où Denis Hopper il joue bien entendu le rôle du méchant avec Asia Argento et alors j'ai vu ça dans la distribution Simon Baker. Moi j'avais pas remarqué. De toute façon à l'époque où est sorti ce film en 2005, Simon Baker c'était vraiment l'illustre inconnu. Et pas de problème hein, dans le casting, c'est pas lui qu'on remarquait de toute façon. Bon depuis il est devenu un mentaliste donc c'est sûr que ça le fait un petit peu mieux. TCM mercredi vous propose à 20h40 L'Ange des Maudits de Fritz Lang en 1952. Avec Marlène Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer, et à l'occasion de cette annonce, je profite pour vous dire qu'à la Cinémathèque tout le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, il y a une thématique qui est consacrée à Fritz Lang, Fritz Lang et les films américains de la période américaine de Fritz Lang. Et donc, vous aurez donc la diffusion de L'Ange des Maudits, mais également plein d'autres. Je pense que j'attendrai la semaine prochaine, et puis je viendrai avec le machin pour vous détailler un petit peu les différents films qui passent. Parce qu'il faut suivre un petit peu, c'est pas évident. Il y a des films qui passent à 19h, d'autres qui passent à 21h et tout. Il faut vraiment rechercher. Bon, c'est une bonne période de toute façon. C'est une bonne période de toute façon de Fritz Lang, où il a vraiment commis pas mal d'excellents films, Fritz Lang. Donc TCM mercredi prochain L'Ange des Maudits c'est à 20h40 et sur Orange Ciné Géant également mercredi prochain Django de Sergio Corbucci avec Franco Nero du très bon western spaghetti là vraiment du très très bon hein. Jeudi sur Paris Première western mais là Paris Première depuis quelques semaines nous fait dans le western classique et avec vraiment des titres quoi, c'est pas des westerns de seconde catégorie, des séries B, non, c'est du grand, du lourd. Ça commence avec un western qu'ils avaient déjà diffusé il y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 4 mois ou 5 mois, L'Homme au Colt d'Or de Dmitrick avec Henry Fonda, Richard Dreyfuss, Anthony Quinn et Dorothy Malone c'est pratiquement un chef-d'œuvre ce film, vraiment quoi, vraiment. Et suivi à 22h50 par Hombre, le film de Martin Ritt. Là, c'est déjà une autre époque hein, parce que L'Homme au Colt d'Or c'est la fin des années 50, 59. Exactement, alors qu'Hombre c'est 1967. Martin Ritt est un réalisateur plus jeune, on va dire génération intermédiaire, nouvelle génération, et donc le western a vachement changé. Paul Newman, Frédéric Marsh, Barbara Rush au générique de ce Hombre qui se laisse également regarder avec aisance. Et sur 13e rue, ouais, soirée Steven Seagal, avec tout d'abord un grand classique et un bon Steven Seagal, 20h40 Nico de Andrew Davis avec les deux gonzesses, et à 22h25 Dangerous Man, et encore Connie Waxman qui réalise, c'était en 2009 avec Steven Seagal et Byron Mann. Et on termine avec vendredi prochain sur RTL 9, deuxième partie de soirée, c'est bien entendu cinéma asiatique. Et là, bah, on commençait à avoir l'habitude des rediffusions de films déjà diffusés dans cette même case horaire, des grands classiques hein, du cinéma chinois hongkongais des années 60-70. Et là, bon, bah, c'est un film de 72, Le Justicier de Shanghai, mais par Chang Che, co-réalisé par Chang Che et Pao Su-Yi, un peu Chang Che, qui est quand même le mec qui a mis le pied à l'étrier, hein, certain.
Twerk?
Non, l'autre.
Twerk?
L'autre.
Putain, attends, ne me demande pas les noms.
Alors,
Il a un trou.
Le film qu'il a fait connaître, Syndicat du crime, ah. The Killer, il poursuit sa carrière aux États-Unis avec, entre autres, Volteface, Wind Talkers.
Allez,
t'es dedans. Bon bah tant pis. Alors donc c'est Chang Che qui a été son mentor hein, au départ quoi. Et Chang Che réalise Justicier de Shanghai avec un de ses acteurs charismatiques et un de ses acteurs fétiches, David Chang. Et également Chen Kuntai. Ça se laisse regarder, c'est pas trop mal. Vendredi prochain également sur Sci-Fi, John Carpenter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit John Carpenter. Invasion Los Angeles vendredi prochain sur Sci-Fi avec Roddy Piper et Keith David.
Ah, c'est pour ça que t'as pas tes lunettes.
Sur Ciné Frisson vendredi prochain à 21h, Bronson de Nicolas Winding Refn avec Tom Hardy, excellent, magnifique, qu'on a pu voir un petit peu plus tard dans Inception, hein, de Christopher Nolan. Ce film date de 2008. Et pour terminer, Polar, la chaîne Polar, vendredi prochain vous propose à 21h Les Inconnus dans la maison. Adaptation d'un bouquin de Simenon avec Rému, Juliette Faber, Jean Tissier, Mouloudji. Et c'est un film réalisé par Henri Decoing en 1942. Alors...
hélas, Cinépolar en ce moment, comme Cinéfix, ils étirent les images pour faire du 16-9. Bah bon, c'est dégueulasse.
Ah bon, ok.
Ah, c'est vraiment dégueu.
Bon. En tout cas, bon, il vaut le coup parce que bon, c'est une excellente adaptation de Simenon. Quoique, le film a été tourné en 42 et donc englobe un petit peu l'ambiance
de l'époque. C'est pour ça qu'il faut le voir, hein. Franchement, parce qu'il y a énormément de techniciens qui en fait sont des résistants. Hein.
Voilà.
C'est un film militant.
Non, c'est pas un film militant justement, quoi. Il est vraiment très très ambigu à tel point qu'à l'occupation, le film a été interdit. Parce que bon bah c'était on savait pas trop sur quel pied danser donc on a préféré l'interdire parce que ça la foutait mal. Henri Decoing c'est quand même l'homme qui a fait de bonnes adaptations de Simenon. Outre Les Inconnus dans la maison, il a également fait L'Homme de Londres l'année suivante en 43 et La Vérité sur Bébé Donge qui est certainement le meilleur des trois à mon avis hein. C'est mon avis personnel réalisé bien plus tard en 1951 et il a également fait c'est lui qui fait Radia sur la Schnouf hein. Bon c'est pas n'importe quoi donc c'est sur Polar c'est vendredi prochain à partir de 21h Les Inconnus dans la maison de Henri Decoing avec Rému surtout. Et ce sera tout pour cette semaine.
Et tu sais que là, on a débordé de 4 minutes.
Bah ouais.
Ça, il va falloir faire très vite, mais ma foi, je crois qu'on n'a pas de résumé de l'émission. Non.
Si.
Ma foi, un match de fort beau gabarit avec seulement 2 duettistes.
Ah bah si, quand même, vous avez loupé tout ça.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on a loupé?
Eh bien, vous avez loupé un agenda sorti de 20 minutes. Vous avez loupé un interview qui ressemble à un interrogatoire. Vous avez loupé des tangiens omniprésents. Merci, Xavier.
Désolé.
Et une pause musicale assez longue pour préparer le café, le gâteau et tout ce que vous voulez.
Nom d'une branlée bien sportive. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas. Allez sur le site web suppléantweekend.fr et vous retrouvez les chroniques, par exemple, de la semaine dernière. Détective D, le mystère, la flamme fantôme, Sex and Zen 3D Extreme Ecstasy, Vivi des Vosges et Akuma Love Song, ainsi que nous écrire, n'hésitez pas, ça nous ferait toujours extrêmement plaisir. C'est sur le site du site web du Supplément Weekend, suppléments-weekend.fr sans accent ni tiret. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en alternant, en direct et en alternance avec Booster FM qui reprend à 17h sur la FM. Et on continue 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le stream sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, eh ben, du coup, on aura peut-être des auteurs invités puisque normalement, eh ben, seront présents Guillaume Bouzard et Relhomme, on espère. En tout cas, on le souhaite puisqu'ils seront en dédicace après à 15h à la librairie Gilbert Joseph. Mais de suite, du sport, va nous parler de l'équipe de France qui part en quart. C'est un homophone.